Donc, j'étais là ce matin, je fais partie du collectif donc, de défense de l'intégrité territoriale des Comores, et notamment sur la question de Mayotte. Donc, en fait, je voudrais juste dire que j'ai remarqué effectivement des similitudes, surtout sur la problématique des visas, des choses, des déplacements de population, surtout entre la population de Yapok, c'est ça? Et Mayotte, mais je voulais quand même apporter quelques précisions. Vous me reprenez si je me trompe, mais donc si je vois bien, là on a la Guyane française, donc reconnue légalement sur le plan international, vous me voilà comme étant un territoire français. On a le Brésil reconnu comme étant un État souverain indépendant. Il y a une frontière. À Mayotte, c'est pas du tout la même chose. Donc je vous apprends, excusez-moi, ceux qui n'étaient pas là ce matin, que Mayotte, ce n'est pas un département français. Donc il y a une population qui est obligée de demander un visa pour partir de Comores, enfin des autres îles pour aller à Mayotte. On leur demande un visa pour aller sur une autre île qui fait partie de leur territoire indépendant et souverain. Donc je ne vais pas détailler parce qu'on a parlé de Mayotte ce matin. C'est juste pour vous dire, lorsqu'on fait des comparaisons entre justement des problématiques qui existent frontalières entre la Guyane française, etc., je ne vais pas non plus faire de comparaison sur la souffrance des populations, sur toutes ces problématiques-là. Je n'en suis pas là, je parle de droit international. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de Mayotte, Mayotte, c'est une question de droit international. Tout ce qui tourne autour. Ce sont les conséquences, un petit peu comme on est en train de parler des conséquences qui existent par rapport au déplacement de population, des populations qui n'ont pas d'identité, entre guillemets, ils sont chez eux, on l'a entendu tout à l'heure, comme les Enjoinés sont chez eux quand ils vont à Mayotte, ils sont chez eux. C'est un territoire comorien. Mayotte n'a jamais été française. Légalement, c'est un territoire occupé. Donc, lorsqu'on parle de Mayotte, ce n'est pas un département français. Je le répète souvent parce qu'il y a une volonté politique. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parlez de. Vous faites référence justement aux fusées. Il faut savoir que toutes ces questions donc de non-reconnaissance ou d'alignement sur les projets de développement des territoires français ou territoires, départements français éloignés de la métropole, si les choses ne sont pas clairement mises en place et qu'on ne veut pas aligner avec les projets de développement en métropole, c'est tout simplement parce qu'il y a des territoires qui ne sont pas clairement identifiés et clairement établis comme étant des territoires véritablement français. Voilà, ça c'est Mayotte. Là on voit, si je vois bien, bon, nous, dans notre collectif, on a compris que Mayotte, c'est un laboratoire. Hein. Tout ce qui a été fait à Mayotte, départementalisation qui n'est pas reconnue par les Nations Unies, la rupéisation en 2014, janvier 2014, non reconnue par les Nations Unies, tous les référendums qui ont été faits depuis l'indépendance jusqu'à maintenant sont non reconnus par les Nations Unies. C'est un territoire occupé. Tout ce processus-là a été pensé bien avant. Bien sûr, avec des projets militaires inavoués, Mayotte avec Pamandzi, station d'écoute, ici on est en Guyane, Kourou, hein, des projets militaires dont la plupart des informations ne sont pas avouées, ne sont pas dites aux populations. Voilà. Donc, évidemment, on va mettre un pont, on va faire un pont en Guyane. Et vous croyez que le pont, c'est pour la population qui est à côté? Non, c'est pas pour eux. On va vous sortir des arguments, c'est pour le tourisme, le développement local, ça va venir peut-être après. Ou certains d'entre eux pensent, peut-être ça va être pour ça. Mais pourquoi on a construit un pont? Je pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Donc, on va empêcher des populations venant du territoire indépendant brésilien ou d'ailleurs qui viendraient au Brésil et qui vont pouvoir peut-être passer cette frontière, aller sur une zone militaire. Où on connaît les enjeux qui sont sur place, qui est la station, voilà, la station de lancement de fusées, etc. À Pamandzi, donc à Mayotte, il y a une station d'écoute qui est là. C'est une zone géostratégique, géopolitique aussi. Passage du pétrole, tout ça c'est détaillé donc, du bouquin de notre expert qui est là, je ne sais pas si c'est parti, Pierre Caminade. Voilà, donc qui a présenté certainement ce travail-là ce matin. Et je ne vais pas aller trop loin, c'est juste pour vous dire que nous sommes en train de parler des conséquences de tout un processus de récolonisation des territoires anciennement acquis par l'État français, qui visiblement ne veut pas du tout, du tout, du tout abandonner cet esprit de conquête qui est vraiment derrière nous. Il n'y a que la France qui s'obstine toujours à garder des territoires. Pas que la France, je vois. Mais il faut savoir que dans la plupart des organismes internationaux, vous allez me reprendre, il n'y a pas de souci. On est là pour débattre. Voilà. Non, mais la France est dans quasiment tous les sièges, tous les organismes internationaux, a toujours un membre de la France siégeant pour sauvegarder les intérêts de la France. Que ce soit dans tous les territoires atlantiques, sur les territoires de l'océan Indien, un peu partout. Voilà. Bien sûr, on peut parler des Américains, on peut parler des Anglais, etc. Mais là, il se trouve qu'on parle essentiellement de tout l'engagement militaire, l'engagement de récolonisation et toutes les problématiques qui sont posées sur les populations, sur des territoires qui ne sont pas clairement définis. Là, on est sur une zone internationale, on ne sait pas trop bien où on va. C'est une reconquête. C'est-à-dire, ce qui a été appliqué à Mayotte ou qui a été appliqué dans d'autres territoires va certainement être appliqué là. Vous me direz, ah tiens, tenez, on a entendu déjà ça. Voilà, quelque part. Là, on est en train de mettre en place une carte de séjour spécifique à Mayotte. C'est-à-dire, c'est une carte de séjour française pour la population de mahoraise, mais cette carte de séjour-là, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas venir en France métropolitaine.
Mais
Voilà. Donc, j'ai terminé là, et puis, comme on est dans le débat, voilà. Merci.
Moi, je ne rentrerai pas dans ce. Le débat de Mayotte est très extrêmement compliqué entre le droit international et le droit
Pas
français.
compliqué, ce qu'on va nous le rendre compliqué, mais les choses sont très précises.
Je rentrerai pas là-dessus. Par contre, je reviens juste sur la Guyane. C'est quand même clairement défini, hein. C'est des frontières. C'est un département depuis 1946. Les frontières sont définies. C'est pas forcément une zone militaire partout, hein, n'exagérons pas. En effet, il y a des enjeux économiques, mais comme dans chaque territoire, dans chaque État, je ne fais pas de politique internationale ni politique française. La Guyane est un département français. La constitution de la Ve République lui permet au gouvernement de pouvoir prendre des législations d'exception. Alors après, on peut débattre de la nécessité. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. Moi, je tiens aussi à préciser que il y a toute une ambiguïté en Guyane aussi, c'est que on accepte la législation d'exception pour certaines choses, on la refuse pour d'autres. Donc on a aussi du mal à se positionner sur l'unité territoriale dont on a envie. C'est-à-dire que on entend beaucoup un discours de la Guyane, c'est particulier, donc il faut des dispositifs particuliers. Et en même temps, la Guyane, c'est la France, et il faut la France. Et il y a une ambiguïté. Il faut la même chose qu'en France métropolitaine. Et il y a une ambiguïté sur ce territoire, sur les personnes qui y vivent, parce que et toute l'ambiguïté, je pense, d'avoir un département français en Amérique du Sud, avec tout ce que l'histoire que ça comporte, la politique que ça comporte. Mais on peut s'interroger aussi, donc au niveau des étrangers, la législation est partiellement dérogatoire, comme on l'a évoqué précédemment. Mais il y a toute la nécessité de dire des fois, ben non, en Guyane, on devrait avoir des avantages. Enfin, par exemple. Je vais prendre un truc, je fais de la caricature, hein, mais vraiment de la grosse caricature. Donc, on ne veut pas de législation d'exception pour les étrangers. D'accord. Par contre, on veut une législation d'exception pour les impôts. Parce que, quand même, il y a moins 40% en Guyane, et ça arrange bien les gens qui habitent en Guyane de payer moins 40%. Et par contre, là, c'est un dispositif dérogatoire par rapport au droit métropolitain. Donc, il y a toutes ces. Et je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre, je ne me prononce pas. Mais il y a toute cette ambiguïté, je trouve, en Guyane, et peut-être dans les autres départements d'outre-mer, mais je ne les connais pas, donc je ne me permettrai pas d'intervenir. Mais en tout cas, en Guyane, il y a cette ambiguïté sur quand est-ce qu'on va dans l'exception? Quand est-ce qu'on est enfin, le droit applicable métropolitain et où on se situe? Et où on met le curseur? Et donc c'est assez compliqué parce qu'on voudrait être comme la métropole, mais en même temps on voudrait aussi qu'on prenne en compte nos spécificités. Et donc je pense que ça, c'est un débat qui durera dans des années, des années, des années. Je n'ai absolument pas la réponse, en tout cas.
Pardon, frontalière qui se pose vraiment cette question, à savoir si elle veut être française ou rester brésilienne, enfin, j'en sais rien. J'essaie de comprendre, je connais pas du tout. Ou c'est une volonté, ou c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que qui vient de l'État français, qui vient imposer à la population le choix de devenir, comme vous disiez tout à l'heure, français ou rester brésilien ou voilà.
Je crois que ça se pose pas dans ces termes-là en Guyane. La Guyane est un département français. C'est sûr que les frontières et la situation géographique de la Guyane font que c'est un territoire particulier parce que les frontières ne sont pas considérées comme des frontières, mais comme dans des lieux d'échange. Mais au niveau du droit international, par contre, comme vous le disiez précédemment, c'est des frontières. Donc toute la problématique est là. Au niveau du droit international, le fleuve Maroni et le fleuve Oyapock sont des frontières entre trois États. Enfin, deux États, Suriname, français et Brésil. Mais en même temps, au niveau de la population, j'ai l'impression, mais après Thibault il connaît beaucoup mieux que moi, j'ai l'impression que les fleuves sont plus considérés comme un lieu d'échange, un lieu d'histoire, un lieu d'échange culturel, économique, familial, et que le droit international, on s'en fiche un peu, quoi. D'accord ? D'être du côté surinamais ou du côté français, ce que l'ONU dit, ou ce que la France. Voilà, on s'en fiche un peu. Par contre, après, la réalité arrive de manière brute, c'est que même si on s'en fiche dans la vie de tous les jours, à un moment, comme disait Thibault, eh ben, on a envie d'aller faire des études à Cayenne, et il faut des papiers. On a envie de se faire soigner à Saint-Laurent, et il faut des papiers. Et du coup, la réalité fait qu'on est confronté au droit et à la nécessité qu'il faut des papiers. On est dans un département français où, quand on est étranger, il faut avoir une autorisation de séjour. Voilà. Et donc, du coup, on est confronté là-dessus, mais comme dans n'importe quel département français où une famille va pouvoir vivre des années en situation d'irrégularité sans avoir trop de soucis, et puis elle va être confrontée à un moment, parce qu'elle doit faire des démarches, à une problématique. Ici, c'est exacerbé sur le fleuve, parce que les fleuves sont extrêmement longs, que ça correspond. Enfin, on est à 5 minutes du Suriname, donc en effet, c'est comme la Belgique, je sais pas. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais c'est.
En fait, quand vous êtes sur le fleuve, vous êtes avant tout dans des populations qui se définissent par leur histoire. Là, moi, je suis chez les Djouka, qui historiquement sont des populations noires marron par une des premières arrivées. Quand j'étais à Papaïchton, j'étais chez les Aloukou, et on m'a jamais dit « t'es au Suriname ou t'es en France ». T'es chez les Djouka, t'es chez les Aloukou, tu descends le fleuve, tu arrives chez les Wayana, donc c'est des Amérindiens. Ils se définissent en tant que communauté parce que effectivement, pour eux, c'est pas forcément lié à un territoire. Alors, chez les Amérindiens, c'est encore pire. Enfin, je dirais encore pire. Ils se définissent pas par rapport à un lieu. Le territoire leur appartient pas. Eux, c'est des gens qui vivent avec la forêt. C'est-à-dire que, à un moment, on les a sédentarisés parce qu'il y a eu plusieurs histoires qui les ont fait se sédentariser. L'arrivée des Noirs Marrons, l'arrivée du colon. Mais eux sont pas définis à un territoire fixe, réellement. Mais par contre, effectivement, comme le dit Justine, quand à un moment donné, eux, ils ont envie d'accéder à une mobilité extra fluvial, là c'est là où les ennuis commencent. Et quand bien même on peut pas blâmer ces populations, j'entends beaucoup aussi les discours de dire ah ils étaient mieux avant quand ils vivaient dans la forêt et tout. Au bout d'un moment ils ont eu accès à la télé, ils ont eu accès aux communications, et je vois pas pourquoi ces gens-là on va les laisser dans la forêt, quoi. Il y a pas de raison non plus. Malheureusement c'est des discours qu'on entend, et effectivement ces gens-là aspirent à vouloir bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même en système éducatif, vous êtes un Amérindien, vous êtes à Trois-Sceaux. Vous êtes un jeune adolescent. Vous voulez continuer vos études après le collège. Alors, collège, vous allez déjà à Camopi. Et après, vous voulez aller au lycée. On est juste au lycée. Vous allez à Saint-Georges. Mais quand vous revenez dans votre village, non seulement vous n'avez plus la transmission des traditions ancestrales, vous ne savez pas si vous êtes amérindien. Quand vous êtes sur le littoral, vous êtes un sale amérindien avec un accent, vous n'êtes pas français. Aujourd'hui, alors ça va être horrible ce que je vais vous dire, mais moi j'avais une amie qui était médecin à Trois-Sceaux cet été en juillet-août. Elle n'avait qu'une hâte, c'était que les vacances scolaires s'achèvent. Donc, Trois-Sceaux, il y a 600 habitants. Il y avait un jeune mineur qui se suicidait toutes les semaines. Chez les Amérindiens, il y a un suicide par semaine d'un jeune Amérindien. C'est-à-dire que là, on est dans une catastrophe totale. Chez les Bouchis, ça ne se pose pas de la même manière, mais la violence est tout aussi flagrante. C'est-à-dire que c'est des gens à qui on a fait miroiter un certain nombre de choses, de réussite, mais qui seront étrangers dans leur propre territoire. Qui ne le sont pas dans leur communauté tant qu'ils y restent, mais si ils ont le malheur d'y bouger pour aller sur le littoral, le redeviennent dans leur communauté, et c'est des gens qui sont complètement déboussolés. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand vous êtes par contre sur leur territoire, ils ne se définiront pas, pour vous répondre, ni surinamais ni français, ça ne veut rien dire. ils vont se définir par rapport à leur langue et à leur culture. Donc c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a une certaine similitude avec Mayotte, dans le sens où c'est un peuple qui a une histoire, des traditions communes, parmi lesquelles on a fait, par contre, on a construit des infrastructures différentes d'un côté ou de l'autre du fleuve, et des droits différents.
Pour appuyer votre propos, justement, en parlant de papier, il y a une grande partie, il y a une tradition aux Comores, sous les quatre îles. Avant d'arriver justement sur des initiatives de l'État pour mettre en place des systèmes d'État civil, cartes d'identité, etc., sur les quatre îles, la population a toujours circulé d'île en île sans papier, parce que c'est comme ça. Et à Mayotte, vous voyez bien qu'effectivement, on a la même problématique, c'est-à-dire que y a des propriétaires de terres, par exemple sur le foncier, il y a une spoliation, il faut appeler un chat, des terrains, tout simplement. On a des familles qui ont eu des terrains transmis de génération en génération, des hectares et des hectares. Aujourd'hui, l'État vient, leur dit, écoutez, il faudra prouver votre propriété de ces territoires, ces terrains, pardon, sinon, passé un certain délai, il n'est plus à vous. Voilà. C'est pareil par rapport aux pièces d'identité. Il y a des familles de génération en génération, on n'a jamais pris vraiment l'habitude d'avoir des papiers sur soi. Donc, un Comorien de Mayotte, on va lui dire, bah, écoutez, alors qu'ils sont là depuis des années, d'ailleurs, il y a un exemple d'un témoignage que je porte sur mon CD qui est là, sur le visa baladure. Pendant des générations, on va habiter à Mayotte, et du jour au lendemain, on va vous dire, vous n'êtes pas chez vous, voilà. On va vous expulser en juin, on vous dit que vous n'êtes pas maoré, alors que vous avez toujours vécu là avec votre famille. Donc, effectivement, les similitudes sont là par rapport à ces questions liées à l'appartenance d'un État ou pas.
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'était que l'assignation à une identité, vous êtes brésilien, vous êtes français, ça correspond à la rationalité instrumentale occidentale qui porte une vision du monde qui, avec d'un côté la nature, de l'autre côté la culture, et ça c'est propre à l'Occident. Et là on a un autre imaginaire, et ce qui fait aussi que voilà quoi, on se retrouve pas forcément, on se comprend pas forcément, parce qu'il y a ces problèmes-là, à voir en arrière-fond.
Tout à fait. Bah, je trouvais que dans le documentaire, la personne qui était la plus lucide, c'était celle qui parlait de la population du fleuve. C'est des gens de la forêt et du fleuve. Oui. C'est une réalité, enfin, quand vous y êtes. Mais oui. C'est des gens qui appartiennent à un territoire, et qui appartiennent à un territoire, qui ont développé des coutumes et une culture liée à un territoire, et qui ont ça qui est très fort entre eux, qui est posé.
Toute la difficulté de se conformer à un état de droit qui est mis en place, et qui est mis en place parce que c'est un département, et du coup il y a un état de droit français qui se met en place et qui correspond pas forcément en effet à la manière dont les personnes vivent. Donc il y a les populations du fleuve, et en Guyane c'est particulier aussi parce qu'il y a les populations du fleuve, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des immigrés qui viennent. Il y a une immigration, je veux dire, un peu quand même métropole, des immigrés qui viennent d'Haïti, d'autres pays d'Amérique du Sud, un peu d'Afrique. Du coup, il y a aussi, c'est pas les mêmes perspectives. Thibaut parlait de toutes les populations du fleuve qui ont des situations assez particulières. Et voilà. Mais après, il y a toute l'immigration sur Cayenne, on va dire, littorale, des Haïtiens, des Brésiliens autres que sur le fleuve et tout ça, qui sont dans... C'est d'autres choses aussi encore, c'est d'autres visions, et voilà, et toute la problématique de l'état de droit. Mais ça, je pense que sur les questions d'immigration, on en est assez souvent là, je suis pas sûre que ça soit propre au département d'outre-mer, on en est souvent là, c'est un état de droit, et comment on se conforme alors qu'on vient d'un autre pays avec d'autres cultures, et voilà. Mais après, c'est vrai qu'en Guyane, on est très fortement marqué par d'où on vient. Moi, autant vous dire que j'étais métro, hein. Voilà, que j'étais touriste, même si j'y habitais, que les créoles sont créoles, que les haïtiens sont haïtiens, que les brésiliens sont brésiliens, que les bouchis sont bouchis, que les aloukous sont aloukous, et j'en passe parce que j'y arrive plus, il y en a trop, mais on est en permanence déterminé en fonction de là où on vient, voilà. Et chez les métros, c'est encore pire, parce qu'après, on vient d'une région. Moi, j'étais bretonne, alors imaginez. Mais c'est difficile, hein.
Bah, surtout quand il y a un Normand à table.
C'est compliqué, hein. Voilà. Donc c'est voilà. Mais c'est vrai qu'en Guyane, particulièrement, on est en permanence renvoyé à d'où on vient. Et la nationalité, ou pour les Amérindiens, là. Je ne sais même pas comment appeler le groupe communautaire auquel ils appartiennent. Je ne sais même pas si j'utilise les bons mots. Mais c'est vrai que c'est assez particulier en Guyane là-dessus. Voilà, on est métro, créole. Et puis il y a les béquets, il y a les créoles des Antilles, il y a les créoles de Guyane. Confondez pas quand même.
C'est et, hyper, et les activités sont liées à ça. Vous êtes cantonné dans un métier, vous êtes cantonné dans des activités, dans des divertissements qui sont liés à votre communauté. Que voilà, comme on vous disait, un exemple du chinois qui sera forcément commerçant, qui sera chinois et qui restera chinois, et qui aura des activités qu'avec les Chinois. Dire que c'est ça, quand je suis arrivé en Guyane, on m'a dit que c'est que des communautés, c'est une mosaïque. Et effectivement, c'est une mosaïque, hein. C'est pas quelque chose qui ensemble essaye de construire quelque chose, mais c'est pas réel vraiment, quoi. C'est vraiment une mosaïque, quoi. Même trouver une identité, vous voyez, on parle du carnaval en Guyane, ce carnaval, ça reste sur le littoral. Les Amérindiens, ils font pas le carnaval, quoi. Il y a des traditions qui se veulent guyanaises qui ne sont pas du tout... Mis à part le rhum, peut-être. J'aurais un bémol sur le rhum, qui est peut-être la seule chose d'unité sur la Guyane.
Ah oui, une grande unité territoriale là-dessus, je pense.
Et je propose de laisser la parole à Marie Duflo, qui va essayer de nous présenter le collectif Migrants Outre-mer, qui du coup intervient, regroupe les associations qui interviennent à la fois sur Mayotte, à la fois sur la Guyane, mais la Martinique, la Guadeloupe, dont on n'a pas parlé... qui a aussi des problématiques migratoires qui se posent là-bas et qui, du coup, va essayer nous aussi de nous donner quelques perspectives. Mais je suis là à tes côtés